Je vais donc peut-être commencer à vous parler du sujet qui m'intéresse. Alors, pour ceux qui ont déjà assisté à quelques-uns de mes propos sur la fibromyalgie, je m'excuse de pas mal de redites sûrement. C'est un sujet qui évolue quand même lentement et un certain nombre de choses qu'on peut dire à une époque restent vraies quand même quelques années plus tard. Ce que je vais vous présenter, il y a un mélange dans ce que je vais vous dire de choses qui sont démontrées, qui sont scientifiques, et je dirais d'interprétations, c'est-à-dire de conclusions un peu personnelles qu'on peut en tirer sur une vision de la fibromyalgie. Je vais essayer de de différencier assez nettement les deux. Si vous avez des doutes sur des choses, pour savoir si ce que je dis est une opinion ou quelque chose de démontré sur le plan scientifique, vous pouvez me poser la question après. Alors, l'avancement se fait avec un petit coup sur la molette. C'est pas très pratique, ça. Voilà. Vous n'avez pas un clavier? Je préfère les petites flèches. Hein. Voilà. Bien. Alors, on va aller assez rapidement sur la définition de la fibromyalgie parce que je pense que vous connaissez pas mal la question. La fibromyalgie, comme vous le savez, c'est un syndrome, c'est pas une maladie, et ça c'est fondamental, et ça sera un peu le fil rouge de ce que je voulais vous dire. Le problème de la fibromyalgie, la raison pour laquelle elle n'est pas reconnue, comme on le dit dans toutes les associations, et c'est une des plaintes des malades, c'est justement que ça n'est pas une maladie. Une maladie, c'est une perturbation du fonctionnement de l'organisme, bien précise, qui a une cause et qui, cette cause entraîne un certain nombre de conséquences qui créent le tableau de la maladie. Un syndrome, c'est pas la même chose. Un syndrome, c'est une collection de symptômes dont on remarque qu'ils arrivent en général tous en même temps. Donc on suppose qu'il y a des points communs entre toutes les personnes qui ont cette collection de symptômes, mais il n'y a pas de cause unique identifiée. Alors, il y a deux attitudes devant cette situation. Ou bien on essaye désespérément de rattacher ce syndrome à une cause pour en faire une maladie. Et ça, c'est une course qui dure depuis 30 ans et qui n'avance pas. À mon avis, qui n'avance pas, c'est-à-dire que on n'arrive pas à trouver en fait un trouble réellement commun à l'ensemble des fibromyalgiques et qui soit responsable de l'ensemble de leurs symptômes. Et la question peut se poser, est-ce que cette course à la création d'une maladie est réellement quelque chose de raisonnable encore à l'heure actuelle, ou est-ce qu'il ne faut pas essayer tout simplement d'essayer de voir ce qui se passe chez les fibromyalgiques et de discerner un certain nombre de façons d'atteindre cette collection de symptômes et s'occuper des malades, en fait, chacun individuellement, en fonction des mécanismes qui, chez lui, sont jugés responsables des troubles. C'est, bien entendu, vous le sentez bien, c'est une deuxième approche qui a été la nôtre assez rapidement, et c'est ce que je vais essayer de vous montrer ce qu'on en a tiré. Donc, sur le plan des définitions, vous savez qu'en gros on considère qu'il y a entre 2 et 5% de fibromyalgiques dans la population et 80% de femmes, 80-85% de femmes. Ça, c'est déjà un problème important, et je dirais que actuellement, il n'y a pas pratiquement de modèle officiel de fibromyalgie qui rende compte de cette prédominance féminine. Bon, la description de la maladie, vous la connaissez. Les douleurs sont quand même décrites beaucoup plus. Je voyais tout à l'heure douleurs neuropathiques. Je ne sais pas où, je crois que c'est sur le tableau A. Non, ça, les douleurs de fibromyalgie ne ressemblent pas à des douleurs neuropathiques. Hein. Ce sont des douleurs musculaires, d'allure musculo-tendineuse. C'est comme ça qu'elles sont décrites, c'est comme ça qu'elles sont ressenties. Et c'est probablement un peu comme ça qu'elles sont créées. Les troubles sont aggravés par l'effort, vous le savez. Il ne s'agit pas vraiment d'une réelle fatigabilité, mais c'est une fatigabilité par l'intermédiaire de la douleur. C'est-à-dire que la capacité musculaire ne diminue pas réellement. C'est le fait que la douleur augmentant avec l'activité, c'est la douleur qui va réduire l'activité et non pas l'impossibilité d'agir, si vous voulez. Très tôt, on a repéré chez les fibromyalgiques une perturbation de la sensibilité à la douleur. Et on a décrit en particulier les points de la fibromyalgie. Je pense que ce côté-là a été probablement très hypertrophié par le désir très fort, en particulier par l'école américaine, mais les Américains dans les 20 dernières années étaient quand même très très dominants dans la pensée médicale mondiale. Le désir absolu d'avoir des critères précis et des éléments permettant de fixer un diagnostic. Donc il y a eu les points de la fibromyalgie qui correspondent grosso modo aux zones d'insertion de la musculature des principaux muscles de posture axiaux, mais très rapidement on en a tiré des conclusions sur la perception de la douleur chez le fibromyalgique qui à mon avis sont assez excessives. On le verra tout à l'heure. Vous verrez tout à l'heure que pour nous, l'augmentation de sensibilité à la douleur des fibromyalgiques est un phénomène qui, d'une part, est relativement modéré, beaucoup, beaucoup moins fort, par exemple, que ce qu'on peut voir dans la dépression, et pratiquement du même ordre que ce qu'on trouve chez tous les douloureux chroniques. Donc, c'est pas du tout une caractéristique majeure, importante, discriminative de la fibromyalgie. La notion quasi constante d'un sommeil vécu comme non réparateur avec cette sensation systématique le matin d'avoir mal dormi a été constatée par tout le monde. Les troubles du sommeil, malheureusement, ont été systématiquement, depuis le début, je dirais, considéré comme une simple conséquence de l'état douloureux, alors que vous verrez tout à l'heure que, à notre avis, c'est un élément très important dans la chaîne causale. Et puis, c'est un état qui dure, comme vous le savez malheureusement. Alors, on va reprendre un peu tout ça. Qu'est-ce qu'il faut penser de la prédominance féminine? Eh bien, notre avis, à travers notre expérience, c'est que, en fait, la fibromyalgie chez l'homme et chez la femme, c'est pas vraiment la même chose. Et que, si vous voulez, notre vision de la fibromyalgie, qui est un état auquel on peut arriver par des tas de voies différentes, eh bien, les hommes et les femmes aboutissent à la fibromyalgie par des voies qui sont statistiquement très différentes entre les hommes et les femmes. Ce qui explique, par exemple, que si on s'intéresse aux troubles psychologiques, parce que, comme vous le verrez, il y a une partie des fibromyalgiques, à notre avis, est déterminée, sinon par des troubles psychologiques elles-mêmes, mais par des événements et par des événements particuliers survenant éventuellement sur des profils psychologiques particuliers, ces troubles psychologiques sont 5 fois plus fréquents chez les femmes chez les hommes fibromyalgiques que chez les femmes. Alors que chez les femmes fibromyalgiques, l'incidence des troubles psychologiques n'est pas supérieure à ce qu'elle est dans la population générale saine. Il y a là une différence fondamentale. Une autre différence, c'est que si on s'intéresse à l'inverse, aux pathologies primitives du sommeil, comme par exemple l'apnée du sommeil. Vous connaissez, je pense, tous l'apnée du sommeil. C'est une pathologie respiratoire qui entraîne, en fait, un manque de sommeil profond. Parce que quand le malade, quand l'individu, parce qu'il n'est pas encore malade, disons, rentre en sommeil profond, le tonus des voies respiratoires supérieures s'affaisse et commence à ronfler de plus en plus fort et puis finit par ne plus pouvoir respirer. Ce qui le réveille de façon très brève. À ce moment-là, les voies respiratoires se rouvrent et il rebascule mais il reste dans un sommeil relativement léger. Le sommeil profond est pratiquement interdit. Bon. Ça, c'est un trouble primitif du sommeil. Eh bien, près de la moitié des hommes fibromyalgiques souffrent d'une apnée du sommeil. Alors que si on recherche l'apnée du sommeil chez les femmes fibromyalgiques, on n'en trouve que 2%. Vous voyez là cette différence fondamentale et à quel point il faut... si je dis que la fibromyalgie de l'homme et de la femme, c'est pas la même chose, c'est pas que les symptômes sont différents, c'est à peu près la même chose, mais c'est que l'importance des différentes causes susceptibles de créer ce syndrome, sont réellement très différents entre les sexes. Alors, dans la recherche désespérée de causes métaboliques, on a été très loin dans les recherches. On a bien entendu commencé par le muscle. On a recherché au niveau du calcium, de l'ATP, du métabolisme du glucose dans le muscle, des causes métaboliques, des causes physiologiques. À la fibromyalgie, on a trouvé bien entendu des résultats, des différences statistiques. Quand on prend un grand nombre d'individus différents, on arrive assez facilement, si on prend suffisamment d'individus, à trouver des différences statistiques entre les deux, même si en fait ces différences statistiques n'ont pas réellement d'incidence sur leur état. Et la plupart des différences qu'on a mis en évidence dans le domaine métabolique, sont de l'ordre de la différence, je dirais, qui pourrait exister entre un individu qui vient de se lever et celui qui a fait un quart d'heure ou 20 minutes de marche à pied. C'est à peu près de cet ordre, au niveau notamment des problèmes d'ATP et de glycolyse. Donc ça n'est pas très sérieux. Et ça reflète probablement simplement le fait que les conditions d'activité des fibromyalgiques et de la population générale ne sont pas statistiquement superposables. En ce qui concerne la vitamine D, c'est là qu'elle se situerait. La même remarque peut se faire. Et qu'est-ce qui est la cause et qu'est-ce qui est la conséquence? Je trouve que le problème n'est pas tranché et qu'il n'est pas du tout impossible que la différence de mode de vie des fibromyalgiques par rapport à la population générale puisse être la responsable de ce décalage statistique en matière de vitamine D. Encore une fois, ce n'est pas du tout une raison pour ne pas leur en donner, mais... je ne suis pas du tout convaincu qu'il faut chercher là la cause du syndrome fibromyalgique. Bon, on a cherché partout, beaucoup ailleurs. On a trouvé, bien entendu, au niveau des hormones, quelques différences. rien de tout ça n'est convaincant. D'ailleurs, rien de tout ça n'a débouché sur une prise en charge thérapeutique efficace. En ce qui concerne l'hypothèse qui a été longuement soutenue, en particulier par beaucoup de rhumatologues, que ces états agaçaient, comme vous le savez, depuis très longtemps, parce que c'est quand même que ça ressemblait à de la rhumatologie non diagnostiquée. Hein. Pour un médecin, c'est très très agaçant, ça. Hein. Il y a des symptômes, puis on n'arrive pas à lui dire ce qu'il a et pourquoi il l'a. C'est pas quelque chose d'agréable. Donc, la tentation de dire c'est une maladie psychiatrique est une tentation permanente devant des symptômes qu'on n'arrive pas à expliquer. Des études statistiques bien faites ont montré, comme je vous le disais, que il n'y a pas de, en tout cas chez la femme, il n'y a pas de différence statistiquement significative entre l'état psychique des fibromyalgiques et celui de la population générale. Alors, on s'est tourné vers la douleur, vers la perception de la douleur. Et ça, ça a coïncidé avec une époque où on a commencé à disposer d'abord de moyens de mesure en ce qui concerne la douleur, et d'autre part d'une meilleure connaissance de la physiologie de la douleur, à un effet de mode sur la douleur qui était, disons, dans les années 90. Donc, cette bien meilleure connaissance du système de modulation de la douleur, c'est une tentation pour chercher là l'origine des choses. Est-ce que par hasard, le fibromyalgique ne serait pas simplement quelqu'un qui a mal quand quelqu'un, là où les autres n'ont pas mal, sans qu'il y ait besoin de troubles particuliers? Est-ce que ça ne serait pas simplement une espèce d'hypersensibilité à la fatigue, à la douleur de fatigue, hein? Vous savez, quand on est très fatigué, ça fait mal. Bon, ben, si on est plus sensible à la douleur, eh ben, on a mal plus tôt, donc on est fatigable plus vite, etc. Ça, c'est une explication qui était simple, qui n'a qu'un défaut, c'est qu'elle est pas vraie. Elle n'est pas vraie parce que quand on mesure la sensibilité douloureuse des fibromyalgiques, on trouve certes un petit décalage avec la population générale, avec une petite hypersensibilité à la douleur, mais une petite hypersensibilité qui est beaucoup, beaucoup plus faible, par exemple, que ce qu'on peut observer dans une petite dépression. Et cette hypersensibilité à la douleur, cette allodynie, comme on dit maintenant dans le langage, eh bien, est tout à fait insuffisante pour justifier l'ensemble de la symptomatologie, complètement. C'est, je dirais que quand on regarde les choses calmement, d'un point de vue de quelqu'un qui s'occupe de douleurs chroniques, c'est quasiment un épiphénomène. C'est quelque chose qu'on a l'habitude de voir chez tous les douloureux chroniques, quelle que soit la cause de leur douleur. Donc, ça n'a pas pour nous de valeur causale. Les particularités du fibromyalgique en ce qui concerne l'expression de la prise de conscience de la douleur, comme on peut l'observer en IRM fonctionnel. Vous savez qu'on fait maintenant de l'imagerie fonctionnelle en IRM, ce qui permet de regarder quelles sont les zones de cerveau qui sont activées par une stimulation, en particulier une stimulation douloureuse, et on arrive à retracer comme ça la façon dont la douleur se construit, si vous voulez, à l'intérieur d'un cerveau. Eh bien, on a effectivement trouvé des différences entre la perception douloureuse, l'imagerie de la perception douloureuse chez les fibromyalgiques, et la population générale. Mais, encore une fois, Cette différence n'a rien de spécifique et on la retrouve en fait de façon presque identique dans beaucoup de phénomènes de douleurs chroniques. Alors, très simplement, notre démarche, c'était de se dire finalement, le malade ressent ses douleurs comme musculaires, il faut peut-être commencer par partir du muscle. Et on a collectionné un peu des faits. Alors ça, ces faits-là sont des faits d'observation scientifique indiscutable. Hein. L'effet, c'est que donc les douleurs prédominent quand même au niveau des insertions musculaires et tout particulièrement au niveau des insertions musculaires des muscles de posture. C'est quoi les muscles de posture? Ce sont les muscles qui sont destinés à, enfin, qui ont comme fonction habituelle prédominante de maintenir la position plutôt que de faire des mouvements. Hein. Vous avez des muscles qui font les mouvements, puis vous avez les muscles qui servent surtout à maintenir la position. Alors, pratiquement tous les muscles font les deux, mais dans des proportions variables. Mais la musculature axiale, ce qu'on appelle la musculature axiale, c'est-à-dire celle qui est autour de la colonne vertébrale, a quand même une fonction qui est beaucoup plus de posture que de mouvement, et en tout cas, elle a une fonction de posture permanente. C'est-à-dire qu'à partir du moment où vous êtes réveillé, et surtout si vous êtes debout ou assis, la musculature de posture est contractée. Et bien, c'est au niveau d'insertion musculaire de ces muscles que, apparemment, l'essentiel des phénomènes douloureux se passe. Alors, est-ce que ces muscles seraient par hasard trop tendus chez les fibromyalgiques? C'est que la tension des muscles de posture, grosso modo, est très fortement corrélée avec la tension psychique. Pas forcément l'anxiété, mais en tout cas la tension psychique. La tension, la concentration, l'attente d'un événement, tout ça va contracter fortement la musculature de posture. Est-ce que par hasard, ces muscles seraient plus contractés chez les fibromyalgiques que chez les autres, ce qui pourrait expliquer fatigue et douleur? Eh bien, non. Pendant la vie éveillée, il n'y a pas de différence, il n'y a pas d'hypercontraction de ces muscles chez le fibromyalgique. Ces muscles sont par ailleurs normaux, enfin ils fonctionnent normalement, et si on enregistre leur activité électrique, cette activité électrique est normale, elle ne montre pas de maladie musculaire particulière. Deuxième constatation, comme on l'a déjà vu, eh bien, les troubles du sommeil sont pratiquement constants dans la fibromyalgie. Alors, est-ce que par hasard, ces troubles, quand on voit quelque chose qui est constant chez tout le monde, on peut se dire, est-ce que par hasard, ça ne fait pas partie de la chaîne causale? Donc, qu'est-ce qui se passe si, chez un individu, on supprime le sommeil profond? Ça, c'est très facile à faire. Vous enregistrez le sommeil de quelqu'un, et puis chaque fois qu'il passe en sommeil profond, pouf, vous envoyez un signal sonore ou une petite décharge électrique dans les orteils qui va le faire passer en sommeil léger. On peut doser assez facilement pour éviter de réveiller les gens complètement. Et donc, on peut prendre des sujets normaux et les priver de sommeil profond pendant un certain temps. Et qu'est-ce qu'on retrouve à ce moment-là? Eh bien, au bout de quelques jours, enfin de quelques nuits privées de sommeil profond, on retrouve des symptômes qui sont grossièrement ceux de la fibromyalgie. La différence fondamentale, c'est que si vous fichez la paix à ces sujets d'expérience, ils reviennent à l'état normal extrêmement rapidement. Pratiquement au bout d'une nuit normale, on voit disparaître la symptomatologie. Mais quand même, c'est un argument assez fondamental pour s'intéresser à ces troubles du sommeil dans la fibromyalgie, ce qui n'a pas été vraiment le sujet central des études jusqu'à présent. la plupart des auteurs ayant tendance à considérer les troubles du sommeil comme relativement secondaires à la douleur. On sait qu'un douloureux chronique dort mal. Ben voilà, les troubles du sommeil de la fibromyalgie sont simplement secondaires à la douleur. Notre opinion est assez différente. En particulier sur des constatations, alors ça c'est pas scientifique, hein, ça c'est des histoires de chasse, comme on dit en médecine. On a constaté chez certains fibromyalgiques, j'ai dans ma mémoire trois cas, vous voyez, ça n'a rien de scientifique, hein, c'est anecdotique, mais quand même, trois fibromyalgiques dont la symptomatologie a complètement disparu pendant une quinzaine de jours après une intervention chirurgicale, ayant comporté une curarisation et une intervention de plusieurs heures. On met ça dans un coin. Mais pendant quelques heures, ces malades ont eu une relaxation complète de l'ensemble de leurs muscles, et ensuite, pendant une quinzaine de jours, ils ont vu disparaître leur symptomatologie. Et puis, elle est réapparue ensuite pour revenir à l'état habituel. Bon, qu'est-ce qu'on sait d'autre sur les muscles et sur les insertions ? C'est qu'il y a un problème au niveau de ces endroits, au niveau de l'insertion des muscles sur les os, c'est un problème de vascularisation. Vous avez en général des muscles qui sont assez importants et qui sont relativement rétrécis au niveau où ils s'insèrent sur les os. Donc à cet endroit-là, il y a des contraintes mécaniques beaucoup plus importantes. Et quand on fait une contraction progressive du muscle, eh bien, alors que la circulation dans le muscle s'interrompt à peu près pour 50% de la force musculaire maximum, à ces niveaux-là, c'est en général plutôt 15 ou 20%. C'est-à-dire que pour que ces zones soient irriguées par le sang, il faut qu'il y ait une relaxation réellement quasi complète du muscle. C'est la caractéristique particulière des insertions musculaires. Alors, vous voyez tout de suite que pour certains muscles, ça pose un problème. Un muscle qui est contracté, mettons, à 30 ou 35 ou 40% en permanence dès qu'on est réveillé, parce que c'est un muscle de posture et qui doit pas se relâcher, sans ça, on devient comme un légume et on s'effondrerait par terre, eh bien, pendant toute la journée au moins, ces muscles peuvent ne pas être vascularisés au niveau de leurs insertions osseuses. Ça, c'est un vrai problème. Donc, ils sont vascularisés quand l'individu dort. Alors, ça tombe bien, c'est le type de tissu dont c'est fait résiste extrêmement bien à l'arrêt circulatoire. Il faut au moins 48 heures d'arrêt circulatoire pour nécroser, pour faire mourir du tissu fibreux. Donc, il y a de la réserve et il faut probablement qu'une heure ou une heure et demie ou deux heures de circulation sanguine par jour suffisent largement à la survie. N'empêche que il faut quand même que ce minimum soit assuré. Autre fait bien démontré, c'est que l'ensemble des pathologies qui engendre des déficits de sommeil profond, augmente de façon tout à fait importante, tout à fait significative, la probabilité d'être fibromyalgique. L'apnée du sommeil multiplie par 10 la probabilité de fibromyalgie chez la femme. C'est-à-dire que chez une femme, vous prenez l'ensemble des femmes, vous recherchez une apnée du sommeil, vous mettez d'un côté celles qui ont une apnée du sommeil et celles qui n'en ont pas. Alors, il n'y en a pas beaucoup qui ont une apnée du sommeil, c'est une pathologie qui est surtout masculine. Enfin, il y a des femmes qui ont des apnées du sommeil. Eh bien, chez les femmes qui ont une apnée du sommeil, la probabilité d'être fibromyalgique est multipliée par 10. C'est quand même un argument important. Une autre pathologie qui perturbe le sommeil, c'est ce qu'on appelle la maladie des jambes sans repos. Je ne sais pas si vous connaissez la maladie des jambes sans repos. C'est une maladie un peu particulière qui est, je dirais pas que c'est l'inverse du Parkinson, mais c'est un peu pareil. C'est également une pathologie du système dopaminergique qui commande, si vous voulez, le démarrage du mouvement. Hein. Ce sont des personnes qui ont une nécessité de bouger. Anormal, des impatiences en particulier au niveau des membres inférieurs et qui s'exacerbent notamment au moment du sommeil. Donc, ce sont des personnes qui vont avoir des mouvements involontaires pendant le sommeil, qui vont perturber leur sommeil, pas forcément les réveiller complètement, mais le perturber. On voit très bien dans les enregistrements qu'au moment des mouvements, eh bien, le sommeil passe du stade 3 en stade 2 ou au stade 1, et ensuite il redescend. Et dès qu'il y a une nouvelle interruption, dès qu'il y a un nouveau mouvement, on réallège le sommeil. Eh bien, la présence d'un syndrome des jambes sans repos, restless leg syndrome, multiplie par 8 la probabilité de fibromyalgie. Si on prend les choses dans l'autre sens, c'est-à-dire que si on prend les hommes fibromyalgiques, on s'aperçoit que 50% des hommes fibromyalgiques ont une apnée du sommeil, ce qui est quand même énorme. Alors que l'apnée du sommeil chez l'homme, c'est 3, enfin ça dépend de l'âge, mais tous âges confondus, c'est de l'ordre de 5-6% à peine. Donc, une de nos hypothèses de travail a été assez rapidement que le manque de sommeil profond pourrait être éventuellement au centre, enfin, peut-être le point commun tant recherché entre l'ensemble des fibromyalgiques. Mais que si on ne trouve pas de cause unique, c'est peut-être parce que, justement, les causes de ce manque de sommeil profond seraient extrêmement différentes entre les malades. Et que ceci crée une hétérogénéité extraordinaire dans cette pathologie et empêche de discerner, si vous voulez, un facteur commun, une typologie commune entre tout le monde. Alors pourquoi les femmes seraient particulièrement exposées à la disparition du sommeil profond? Là, nous n'avons pas la réponse. On peut tout imaginer. Je dirais que notre idée actuelle, est très simple, hein, c'est que finalement, le sommeil du fibromyalgique, c'est le sommeil d'une sentinelle. C'est le sommeil d'un veilleur de nuit. C'est-à-dire, c'est un sommeil léger, avec surtout une faculté d'éveil extrêmement facile. On peut faire une petite étude. Je crois qu'il y a beaucoup de fibromyalgiques dans la salle. On peut faire un petit test, par exemple. Quels sont ceux parmi vous qui considèrent qu'ils dorment mal, c'est-à-dire qu'ils se réveillent fatigués le matin? Ça fait du monde. Bon, ça, c'est déjà démontré dans la littérature. Quels sont ceux qui ont l'impression que ils sont réveillés pour un rien? C'est-à-dire qu'un petit bruit, un tout petit bruit, va suffire à les réveiller. Ça fait aussi du monde. Pardon? J'entends, mais oui, on va... Bon, certain. Je termine ce petit sondage parce que ça devient intéressant. Quels sont ceux qui sont particulièrement gênés par ce fait d'être réveillés pour un rien? D'accord. Et maintenant, quels sont ceux d'entre vous qui dorment avec des bouchons d'oreilles? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 9, 10. Bon. Je vous demande, on en reparlera tout à l'heure, mais je vous demande de méditer un tout petit peu sur cette constatation. C'est que, en fait, vous avez donc une population importante ici qui se réveille trop facilement, au moindre bruit, qui en souffre, et qui pourtant ne met pas de bouchons d'oreille pour ne pas entendre les petits bruits. Ça, c'est une des choses qui nous a fait réfléchir très tôt. Ça, c'est un résumé de ce qui vient d'être dit, pour bien visualiser le... Pardon ? On en parlera tout à l'heure, je vous promets. Mais à la limite, ce qui m'intéresse, oui, la réponse est oui, probablement. Mais ce qui est le plus intéressant, ça n'est pas que ce déficit, je dirais, d'autres traitements, mais c'est la raison pour laquelle le fibromyalgique ne le fait pas. Et quels sont ceux qui se sentent incapables de mettre des bouchons d'oreille? Voyez un peu. C'est l'immense majorité. Je ne fais pas l'injure, maître fibromyalgique, de dire que s'ils ne le font pas, c'est qu'ils n'y ont pas pensé. C'est parce que ça leur est... Ça fait mal. Ça empêche de... Ça crée une espèce d'angoisse de ne pas pouvoir entendre ce qui se passe autour. Enfin bon, c'est toute cette chose-là dont on parlera tout à l'heure. Alors, d'autres arguments pour penser à l'importance du sommeil, c'est que le seul médicament, finalement, qui a été démontré comme un peu efficace dans la symptomatologie de la fibromyalgie, bon, qui n'est pas forcément très utilisé parce que il y a quand même des effets secondaires qui sont éventuellement supérieurs aux avantages. Ce sont les antidépresseurs, en particulier les antidépresseurs tricycliques à faible dose, qui ont comme particularité de régulariser le sommeil et d'augmenter un peu la proportion de sommeil profond. Un autre argument, alors ça c'est un argument faible, c'est que quand on regarde l'évolution de la fibromyalgique et qu'on arrive par exemple à améliorer la qualité du sommeil, on constate en général quelques semaines après l'amélioration du sommeil une amélioration au niveau des douleurs. Et que ça confirme assez bien ce type de chaîne causale. Et puis que les anti-inflammatoires, éventuellement, ça peut aider. Alors, ça nous amène à remettre en question, en fait, le schéma habituel, qui était un trouble primaire caractéristique des fibromyalgiques, éventuellement génétique, parce que c'est la mode, qui donc les rendrait particulièrement sensibles à la douleur, ce qui entraînerait d'une part des modifications du sommeil dû à la douleur, et d'autre part des modifications de la perception douloureuse, avec en fait éventuellement quelques petits troubles psychologiques consécutifs à cette douleur chronique. Il y a une autre chaîne de causalité un petit peu différente qui a émergé dans les dernières années, qui était en fait une modification du sommeil par un trouble de métabolisme de la sérotonine entraînant un déficit de détente musculaire, les troubles au niveau des insertions musculaires dont on a parlé tout à l'heure, et donc les douleurs. Et qu'en fait, la fatigue serait une conséquence simplement du trouble du sommeil. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire pour essayer de valider ce type d'hypothèse ? La première chose qui nous a paru importante, c'est d'essayer d'accéder à l'activité des muscles de posture pendant la nuit. Si on prend l'idée que ça n'est pas un excès d'activité pendant la journée, mais que c'est un déficit de décontraction, il est très important de voir ce que deviennent ces muscles pendant la nuit. Voilà ce que voilà un enregistrement typique d'un sujet normal, témoin, pendant la nuit en ce qui concerne sa musculature de posture. En l'occurrence, ce sont les trapèzes, ce sont les muscles du cou qui maintiennent le cou droit et qui éventuellement permettent de tourner la tête. Vous voyez que ça c'est le début du sommeil. Ça, c'est la fin. Ça, c'est le lever. Et entre les deux, vous avez entrecoupé de quelques soubresauts nocturnes un état de base de la contraction musculaire des trapèzes qui est pratiquement à zéro. Si on fait le même enregistrement chez un fibromyalgique typique, on va trouver la persistance d'un... Alors là, il y a deux réveils nocturnes. Ça, c'est des vrais réveils. Hein. Ça fait pas loin 25 minutes ici et 30 ou 35 minutes là. Ce sont des réveils qui laissent un souvenir. Les autres, ce sont des secousses musculaires. Et vous voyez la persistance pendant toute la durée du sommeil d'un tonus musculaire permanent. Ça, c'est l'enregistrement de ce qu'on appelle une céphalée de tension. La céphalée de tension, ce sont des malades qui ont mal à la tête quasiment tous les jours. Qui ont souvent des trapézalgies et pour lesquels on pense que l'essentiel du trouble, en fait, ce sont des phénomènes inflammatoires au niveau de l'insertion occipitale des trapèzes. Ça va avec un certain état de tension psychique. Mais vous voyez que c'est une situation qui est un petit peu intermédiaire avec la fibromyalgie. Il y a quand même un peu plus d'activité. Notamment ici au niveau du trapèze gauche. Hein. Il y a ça, c'est quand même anormal, mais c'est une forme mineure d'un peu la même chose. D'où notre intérêt pour le tonus nocturne des musculatures de posture et son corollaire qui est le niveau de vigilance. Le niveau de vigilance, c'est l'attention qu'on porte aux événements extérieurs. On porte l'attention aux événements extérieurs, notamment parce que il est nécessaire à notre survie de détecter rapidement un événement dangereux. Les musculatures des postures est d'autant plus tendue qu'on a une vigilance plus forte. Ceci a probablement des raisons physiologiques. C'est évident que la protection du rachis en cas d'agression, en cas de danger est une priorité absolue. La rupture du rachis, la rupture de la colonne vertébrale pour le mammifère, c'est quelque chose de dramatique et qui, dans la nature, signifie pratiquement la mort. Hein. Quand l'ours veut tuer un mammifère, éventuellement un homme des cavernes, il cassait le cou d'un coup de patte. Et donc, pas étonnant que quand l'homme des cavernes avait l'impression que l'ours approchait ou qu'il entendait son grognement dans son dos, la première chose qu'il faisait, c'était de contracter ses trapèzes. Donc il y a ce parallélisme, vigilance et trapèze. Alors qu'est-ce qui va déterminer l'évolution de notre niveau de vigilance? Eh bien, c'est notre expérience, c'est nos connaissances et c'est nos conditions de vie. Mais c'est aussi éventuellement notre sexe. Et il y a éventuellement des différences entre les capacités d'évolution de la vigilance chez l'homme et chez la femme. En particulier, si on vous demande qui se réveille le premier, par exemple, quand un nourrisson a une respiration un peu bizarre, commence à faire des petits bruits inhabituels, etc., c'est rarement monsieur. Hein ? Même si c'est monsieur qui se lève parce qu'il est sympa, c'est en général sa femme qui va le réveiller. Hein ? Ça, c'est une question de bataille. Donc, cette fonction, la capacité à acquérir cette fonction sentinelle, c'est pas évident hein, de se réveiller sur un petit bruit inhabituel. Hein. Il faut que le système de désafférentation, comme on dit, au niveau du sommeil, soit déconnecté. Normalement, quand vous dormez, vous vous mettez dans un endroit sûr, hein. Les lapins, ils prennent leur terrier, on se met, les oiseaux, ils se mettent en haut de leur nid, on se met dans un endroit en sécurité, de façon à pouvoir couper les afférences en provenant de l'extérieur et dormir profond. Le fait d'être obligé de garder une certaine vigilance va altérer le sommeil, mais la capacité à le faire est probablement, je dis probablement parce que malheureusement ça n'a pas été étudié, probablement plus efficace chez la femme que chez l'homme. Et c'est peut-être là une des raisons de cette asymétrie entre les sexes en ce qui concerne la fibromyalgie. C'est une hypothèse, ça, hein, c'est pas du tout démontré, et c'est une hypothèse que je livre à votre réflexion. C'est difficile à apprécier parce que la mesure de la vigilance est quelque chose de difficile. Bon, on commence à savoir le faire, mais c'est un vrai problème. Et une des difficultés majeures pour valider ce type d'hypothèse, c'est que actuellement l'étude de la profondeur du sommeil ne fait pas partie de l'hypnogramme standard. Ça, c'est un problème très important. Beaucoup d'entre vous ont probablement eu des enregistrements de sommeil. Là encore, on peut faire un petit sondage. Qu'est-ce qu'a fait un hypnogramme? Pas énormément. Mais pourquoi est-ce qu'on ne fait pas d'hypnogramme systématique dans la fibromyalgie? Parce qu'en général, on ne trouve pas grand-chose. On trouve ce qu'on appelle l'alpha-delta sleep, c'est-à-dire un certain envahissement des périodes de sommeil profond par quelques éléments de type veille. Mais ça n'a rien de très spécifique. Ça se voit également dans quelques phénomènes de douleur chronique. Et ça n'a pas vraiment durablement intéressé grand monde à cause de ça. Mais le problème fondamental, c'est que l'hypnogramme classique ne mesure absolument pas la profondeur du sommeil. C'est-à-dire que vous pouvez avoir un malade ou un sujet bien portant qui a un sommeil, par exemple, de stade 2 ou 3, qui va être réveillé au moindre bruit, et un autre qui va à côté duquel on pourrait battre le tambour sans que ça le dérange dans son sommeil, et ces deux individus avoir exactement le même hypnogramme. C'est-à-dire le même tracé électroencéphalographique, les mêmes enregistrements musculaires, etc. Donc, on ne mesure pas actuellement la profondeur du sommeil quand on fait des enregistrements de sommeil. Or, c'est possible, c'est faisable, mais ça ne se fait pas. D'autre part, en ce qui concerne l'activité musculaire pendant le sommeil, les muscles qu'on a choisis au début, qui sont en gros les muscles frontaux, la houppe du menton et les jambiers, sont, comme par hasard, les muscles qui, chez tout le monde, sont toujours détendus pendant les périodes de rêve, c'est le sommeil paradoxal. C'est pas étonnant, c'est pour ça qu'ils ont été choisis. Quand M. Bouvet a défini sa technique d'enregistrement du sommeil, il a cherché les muscles qui, systématiquement, étaient détendus, étaient inactifs pendant le rêve, pendant les périodes, ce qu'on appelle les périodes de sommeil paradoxal, où il y a des mouvements oculaires et puis rien du tout, un sommeil de type, un enregistrement cérébral de type veille, et pas de bon. Mais il a sélectionné ces muscles-là pour ça. Et pour nous, ça a été une très grande surprise de voir, en enregistrant les trapèzes, qui sont des muscles qui, en principe, sont en dessous du niveau où toute activité motrice est censée s'interrompre pendant le sommeil paradoxal, et bien qu'elle n'était pas coupée à ce moment-là. C'est quelque chose qui est relativement connu, mais qui a été, si vous voulez, oublié dans l'étude du sommeil, parce que le principe fondamental, c'était d'établir les rythmes. C'était d'établir les rythmes et d'avoir des critères extrêmement précis pour définir les rythmes, les stades de sommeil. Donc, notre étude actuelle du sommeil ne prend pas en compte la vigilance intra-sommeil. Et ça, c'est complètement capital, et c'est quelque chose auquel il faudra remédier. Les gens qui s'occupent actuellement de sommeil en sont conscients et sont en train de travailler là-dessus. On en arrive donc à une des causes. Donc vous voyez, pour l'instant, on a retrouvé à peu près trois causes principales de fibromyalgie. Les troubles du sommeil primitifs, je dirais, par exemple l'apnée du sommeil, les jambes sans repos. Excusez-moi, j'ai été gêné par un. Non. Donc, les troubles primitifs du sommeil. Et puis, les causes éventuelles d'une impossibilité à mettre la vigilance à zéro. Donc, le trouble du sommeil primitif, bon, on les met de côté. Et on va s'intéresser à ce qui peut, en fait, empêcher un individu d'accepter la vigilance zéro. Bien, quand on interroge les malades et quand on fait la liste de tout ça, on tombe sur des choses extrêmement variées. Alors, je vous ai fait un petit catalogue. Et puis, on va passer un peu ça en revue, parce que vous allez peut-être reconnaître ici ou là quelques cas que vous connaissez. La première cause, c'est l'entraînement excessif à la vigilance, qui peut commencer très tôt dans l'enfance, c'est-à-dire ça regroupe en gros ce qu'on appelle la parentalisation, c'est-à-dire que certains enfants sont très jeunes entraînés à être vigilants comme des parents, à acquérir la responsabilité d'enfants plus jeunes, à les surveiller, à les protéger, etc. Ce type de comportement peut induire en fait la mise en place d'habitudes de sommeil comportant une veille intra-sommeil et déboucher à partir d'un certain âge sur des syndromes fibromyalgiques. On en connaît, nous, un nombre assez considérable. Les professions dites antipathiques ou désagréables. Je ne sais pas s'il y en a dans la salle, mais pense aux contractuels, aux huissiers qui vont saisir les gens chez eux. Enfin, il y a un certain nombre de métiers comme ça qui font que l'individu est vécu, en général, dans le cadre de son activité professionnelle, comme antipathique, ou en tout cas exerçant une fonction antipathique. Ben, ce type de profession peut entraîner une espèce de vigilance permanente débouchant sur un autre type extrêmement fréquent, plus fréquent que les précédents, c'est une expérience cruciale. Alors, l'expérience cruciale, il y a beaucoup d'entre vous qui ont connu ça, c'est-à-dire c'est souvent l'événement qui est raconté par le malade comme à l'origine de ses problèmes. C'est très souvent ce qu'on peut appeler une agression surprise. Le type de l'agression surprise, le type emblématique, c'est ce qu'on appelle le whiplash, c'est-à-dire le coup du lapin. Hein. Vous êtes dans votre voiture, bien climatisée, il fait beau. Il y a une musique douce sur la chaîne IFI, vous êtes arrêté tranquillement au feu rouge en attendant que ça se passe, et sans le moindre coup de frein, sans le moindre avertissement, une voiture vient vous percuter à l'arrière. Hein, et votre tête part à fond en arrière, puis à fond en avant, à la limite de la fracture cervicale. Et vos centres de vigilance enregistrent quelque chose qui est tout à fait dramatique, c'est-à-dire que vous venez de subir une tentative de meurtre, alors que le cortex avait dit tout va bien, on peut mettre au vert tous les voyants et baisser la vigilance complètement, il ne peut rien se passer. Ce type d'incident dramatique qui génère ce qu'on appelle en psychiatrie les syndromes post-traumatiques, et les névroses post-traumatiques, est un véritable drame pour le système parce qu'il y a une perte de confiance totale par rapport aux estimations habituelles de la dangerosité externe. Et à ce moment-là, le sommeil du jour au lendemain est totalement modifié et on rentre dans ces hypervigilances intra-sommeil. Un autre phénomène qu'on retrouve assez souvent, c'est ce qu'on appelle la perte de refuge. Le refuge, c'est une notion capitale. Dans tous les jeux d'enfants, si vous vous souvenez un peu de votre enfance, quand vous jouiez au ballon prisonnier, à l'épervier, je sais pas si ça se fait encore, mais enfin, je vois des gens qui dans la salle qui sont d'une génération où ça se pratiquait encore. Donc des jeux qui miment, en fait, l'agression, qui miment le danger. Eh bien, dans les jeux d'enfants, il y a toujours un camp. Il y a toujours une possibilité de se mettre temporairement quand la charge anxieuse devient trop importante, quand on ne supporte plus le stress, de se mettre dans un endroit où on ne peut plus être atteint pendant un certain temps. Et puis quand on a récupéré, on en ressort pour se réexposer au danger. C'est ce qu'on appelle le sanctuaire. Et le sanctuaire, c'est quelque chose de capital. Vous pouvez toujours essayer de créer un groupe terroriste. Si vous ne ferez pas un sanctuaire, vous n'aurez aucun succès. Hein. Et l'attaque du sanctuaire d'un groupe terroriste, c'est pour les gens qui luttent contre un objectif majeur. À partir du moment où vous arrivez à créer l'insécurité dans le sanctuaire du terroriste, le groupe en général se disparaît. Donc la notion de sanctuaire, c'est quelque chose de fondamental. Alors de temps en temps, on trouve des histoires. Je me souviens de viol du sanctuaire. Chez une de nos malades, c'était, elle avait l'habitude d'agacer sa grande sœur, et puis ensuite d'aller se réfugier dans sa chambre. C'était une espèce de jeu, hein. Et puis un jour, la grande sœur a cassé la porte, et à ce moment-là, elle a mis une trempe. Et ce souvenir-là, il est sorti. Au bout d'une heure d'entretien, dans la consultation, c'est pas un hasard, hein. C'est que Ahmad, en remontant dans ses souvenirs, dans ses sources, finalement a fini par parler de cet incident-là qui pour elle avait marqué quelque chose dans sa vie. De même, on peut mettre dans la même catégorie tous les accidents de la vie qui correspondent à une agression de la part d'un individu qui aurait dû être un individu protecteur. Et là, on retombe sur tous les problèmes d'agression sexuelle des enfants, en particulier d'agression sexuelle par des proches de la famille ou par des membres de la famille, qui sont des traumatismes extrêmement violents, de par justement la contradiction extrême entre l'attitude qui devrait être une attitude protectrice, et je vous rappelle que pour un enfant, en principe, tout adulte devrait être un être protecteur. Donc même si l'agresseur sexuel n'est pas de la famille, il s'agit quand même de l'agression par un sujet en principe de confiance. Mais ces agressions sexuelles donc sont, comme vous le savez, particulièrement fréquentes dans les antécédents des fibromyalgies. Alors, ce qu'on appelle le syndrome de Cain aussi, c'est... Pardon ? 5 minutes. 5 minutes et après tout le monde tombe. Le syndrome de Cain, c'est tout simplement l'individu qui a quelque chose dans sa vie auquel il ne veut pas penser, un remords, quelque chose de très lourd auquel il n'est pas question qu'il pense, parce que s'il y pense, ça le met dans un état psychologique qui ne lui permet plus de fonctionner. Eh bien, le fait de devoir s'empêcher de penser à quelque chose, c'est-à-dire de s'empêcher de penser non seulement à cette chose-là, mais aussi à toutes les choses qui peuvent vous y faire penser, nécessite une vigilance permanente, de jour comme de nuit, parce que c'est valable également au niveau du rêve et du sommeil, et ceci peut être également une cause de non-décontraction. Ce qui fait qu'on finit par aboutir à ce système, la mise en jeu des systèmes d'alerte dépend en fait de trois facteurs. Un facteur génétique, on peut être plus ou moins anxieux, comme vous le savez, de façon génétique. Ça, c'est un problème d'enzymes et de voies métaboliques des médiateurs neuronaux. C'est un problème de structure psychologique, c'est-à-dire de l'éducation de son fonctionnement psychologique. Et puis, c'est aussi un problème d'événements de vie. Le déclenchement, ça va être en général des événements de vie qui vont entraîner donc une mise en alerte permanente avec des modifications de sommeil et des modifications permanentes des processus attentionnels. Ces modifications du sommeil et des processus attentionnels. Dans les processus attentionnels, il y a également la sensibilité à la douleur. C'est là qu'on la retrouve, hein. La sensibilité à la douleur, c'est en fait l'attention que le cerveau porte aux signaux douleur. Hein. Ça peut être plus ou moins fort. C'est-à-dire que dans le combat, on peut être complètement insensible à la douleur. et puis un quart d'heure après, la ressentir très fort. Donc les processus attentionnels, si vous avez une attention permanente aux stimuli signalant la dangerosité, vous avez de toute façon, c'est là qu'on retrouve une petite augmentation de la sensibilité douloureuse. Donc la relaxation musculaire nocturne disparaît parce que la profondeur du sommeil est limitée par les nécessités de la vigilance. Et tout ça va aboutir à une augmentation donc permanente de la perception douloureuse et à la douleur de la fibromyalgie. Alors, conclusion. Enfin, ça va comme ça. Conclusion. Qu'est-ce qu'il faudrait faire pour aller plus loin? Étudier donc la vascule tendineuse, ça c'est sûr. Mettre au point l'enregistrement du tonus musculaire, parce que nous ne savons pas enregistrer le tonus musculaire, on sait enregistrer l'activité électrique des muscles. Ce que je vous ai montré, c'est l'activité électrique des muscles. Il n'y a pas forcément un parallélisme complet entre l'activité électrique et la force de contraction. Et puis surtout, améliorer la précision des hypnogrammes. La deuxième conclusion, c'est que il est très important, au début de la prise en charge d'une fibromyalgie, de faire un bilan complet. C'est-à-dire, premièrement, s'assurer de l'absence d'une pathologie rhumatismale. Ça, en principe, tout le monde le fait, et tout fibromyalgique a eu un examen rhumatologique et un bilan rhumatologique complet. Mais ce qui n'est pas toujours fait, c'est rechercher une cause primitive de troubles du sommeil. En particulier, apnée du sommeil, jambes sans repos. Mais en gros, faire un hypnogramme, parce que c'est la seule façon de, en particulier, les jambes sans repos, ça peut très bien passer inaperçu à l'interrogatoire. Certains sont évocateurs à l'interrogatoire, d'autres pas. Donc, l'hypnogramme, c'est très important. Rechercher des signes d'hypervigilance. Par l'interrogatoire, est-ce que vous êtes capable de vous détendre ou pas? Je pense qu'on vous a tous posé la question, mais enfin, si on l'a pas fait, on aurait dû. Un petit test que nous on pratique volontiers, qui est très simple, c'est ce qu'on appelle le clap test. Quand vous prenez quelqu'un, vous le mettez en situation allongée, vous lui demandez de se détendre, vous lui parlez gentiment, etc. Vous faites un peu de sophrologie. Là, le malade est complètement détendu. Et vous passez subrepticement derrière lui et vous claquez très fort dans vos mains. Hein? Le sujet, habituellement, va sauter en l'air. À peu près 85 ou 90% des fibromyalgiques ne réagissent pas du tout. Pourquoi? C'est-à-dire ne bougent pas. Ils ouvrent les yeux, ils vous demandent éventuellement pourquoi vous avez claqué dans les mains, mais ils ne bougent pas. Pourquoi? Tout simplement parce que leur musculature de posture est déjà contractée. Le malade que vous avez détendu, entre guillemets, en fait, il a sa musculature de posture encore contractée. Quand il veut, il n'a rien à contracter, donc ça ne provoque pas de mouvement. C'est un petit test très simple, mais qui vous permet de mettre en évidence cette absence de décontraction. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire? Un détail, c'est le traitement. Hein. C'est peut-être ça qui vous intéresse, en fait. Si je ne me suis pas beaucoup étendu sur le traitement, c'est parce que, comme vous le savez, on a quelques soucis de ce côté-là. Et bien que certaines avancées se précisent, on n'a pas énormément de choses à faire. Première chose, rechercher des techniques permettant d'obtenir une meilleure relaxation nocturne. Ça, c'est un certain nombre de techniques, parmi lesquels récemment on a introduit la PCP thérapie dont vous parlera le docteur Karasani, qui est une technique permettant de décontracter la musculature, y compris la musculature de posture. Chez des malades où cette contracture est devenue permanente, ce qui est une partie de ces malades. La psychothérapie. Alors, la psychothérapie, c'est un peu le fond du problème. Aller rechercher éventuellement la cause ou les causes de ce trouble de vigilance primaire et mettre au point une technique tout à fait individuelle. Et là, il n'y a pas de règles, ça peut être extraordinairement divers. Il s'agit de trouver le moyen de faire sauter le verrou. Alors, on peut utiliser les thérapies comportementales, on peut utiliser même l'hypnose, on peut utiliser des techniques plus freudiennes, mais il s'agit de reconditionner en fait l'individu pour faire disparaître cette nécessité impérieuse d'hypervigilance permanente. Une technique qui est en cours de réflexion, même pas d'expérimentation, de réflexion, ce serait un reconditionnement des réactions au danger. Et ça, c'est un point intéressant. Un certain nombre d'individus, spontanément, ont comme moyen de défense contre l'hypervigilance permanente, qui peut devenir douloureuse, en fait, une mise en danger délibérée, factuelle, matérielle, de type... même dangereuse, enfin conduite en vitesse excessive, pratique de promenade sur des chemins un peu dangereux, etc. Enfin, se mettre en danger de façon à peu près mesurée, mais de façon à provoquer en fait au moment de la fin du danger. Une réaction de détente. Réfléchissez bien, vous verrez, c'est une des fonctions du sport, cette fonction de danger. Le sport qui est un substitut de l'activité violente que nous n'avons plus, pour la plupart d'entre nous, réalise un peu ça. Eh bien, le but du sport, c'est aussi quelque part la fin du sport. C'est-à-dire qu'au moment où vous terminez la mise en danger, vous ne risquez plus d'être passé par un passing shot quand vous montez au filet du tennis. Eh bien, vous avez un sentiment de détente et il y a une partie de nos malades qui ont ce type de comportement. Bien, je crois qu'on va peut-être arrêter là, parce que on pourrait parler de la fibromyalgie pendant des heures. Je voudrais surtout répondre aux questions maintenant, parce que ça doit vous brûler les lèvres.
Donc.
Attends.
Merci. Dans votre expérience, monsieur, est-ce que le sommeil des fibromyalgiques se rapproche plus de l'anxiété ou de la dépression ou du stress post-traumatique? Enfin, quel est, en général, ça ressemble à quoi un sommeil de fibromyalgique? C'est plus proche de l'anxiété que de la dépression?
Alors, c'est beaucoup plus du côté. C'est beaucoup plus. Allô?
Il y a un écho.
C'est beaucoup plus du côté de l'anxiété que de la dépression, mais y a pas les fibromyalgiques sont peu déprimés. C'est pas une maladie dépressive la fibromyalgie. Et même je dirais que par rapport à leur condition de vie et au niveau de leur handicap, ils sont particulièrement peu déprimés. Ils devraient l'être plutôt plus. À la limite. Ouais, c'est très démagogique. Enfin, c'est quand même un fait. Ça ressemble. Le stress post-traumatique, le sommeil spécial de post-traumatique, c'est un peu différent parce que dans le stress post-traumatique, il y a le phénomène du rêve impossible, c'est-à-dire que le cauchemar, ce qu'on appelle le cauchemar stéréotypé, c'est-à-dire que la façon normale, physiologique, de se débarrasser d'un souvenir traumatisant, c'est de le rêver et c'est de reproduire en fait en rêve une cascade émotionnelle équivalente en construisant en face un événementiel différent et éventuellement complètement abracadabrant qui n'a aucune chance de se reproduire dans la réalité. Ça vous permet de mettre en face un fait, en face du souvenir émotionnel que vous avez, un souvenir factuel différent qui va prendre la place du souvenir officiel, ce qui va vous permettre de ne plus risquer de ressentir l'émotion dramatique à l'occasion d'une circonstance qui rappellerait les circonstances du drame. Le problème de ce système, c'est quand l'émotion est trop forte, le sujet est réveillé, ce qu'on appelle le cauchemar, hein. Le sujet est réveillé par l'intensité de l'émotion, il n'arrive pas à terminer le travail du rêve, et il réessaye comme ça plusieurs fois jusqu'à ce qu'il abandonne, et à ce moment-là, interviennent des phénomènes de névrose. Enfin, c'est comme ça un peu qu'on voit les choses. Ça c'est la différence, c'est que chez le fibromyalgique, il n'y a pas cette tentative permanente de neutraliser ce souvenir. En général, ça a été digéré. Comment vous voyez que ça a été digéré? C'est que un souvenir est digéré sur le plan émotionnel quand la perception émotionnelle ne se reproduit pas quand vous racontez l'histoire. Hein? Alors, si quand quelqu'un vous raconte une histoire, il se met à pleurer, c'est qu'il n'a pas réussi à faire ce travail, en particulier au niveau du rêve. En général, quand un fibromyalgique vous raconte les circonstances qui sont éventuellement à l'origine de sa pathologie, il n'y a pas ce phénomène de contamination émotionnelle. Donc probablement, sur ce plan-là, c'est digéré. C'est ça la différence avec la névrose post-traumatique. Par contre, ce qu'il a gardé, c'est l'interdiction à détente.
Donc, par souci de temps, ce que je vous propose, on a un site qui s'appelle Mercredi Fibromyalgie, un site de SES Fibromyalgie. Vous pouvez très bien envoyer vos emails, les questions que vous avez, parce qu'il y a certaines questions que vous posez déjà, le docteur Binoche a déjà répondu. Et puis, donc, vous pouvez l'envoyer. Donc, docteur Binoche doit partir donc en province. C'est pour ça qu'on ne va pas le retenir beaucoup. Donc, vos questions, si vous voulez bien, vous posez ces questions-là, vous les envoyez soit à l'association, soit vous les envoyez sur Mercredi Fibromyalgie. De toute façon, c'est les premières réunions qu'on fait, on va dire, massivement. Donc, vous aurez vos réponses, si vous voulez bien, par la suite. Merci beaucoup. Je voulais bien applaudir docteur Binoche.